Voilà, on va commencer. Donc, bonsoir à tous. L'Espace Mendès France et l'école de l'ADN sont ravis de vous accueillir ce soir pour écouter donc Joëlle Roche, qui beaucoup d'entre vous la connaissent. Donc, elle est professeure à l'Université de Poitiers. Elle enseigne la biologie et la biochimie moléculaire. Et ce soir, donc, elle nous a proposé de nous parler d'épigénétique. Et je vois que vous êtes venus nombreux, donc je suis ravie. Voilà, donc je sais qu'elle a travaillé pour le rendre le plus accessible. Donc, si à la fin de son exposé, vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je pense qu'elle sera ravie de vous répondre. Et puis, donc, je vais passer rapidement la parole donc, à mon collègue Laurent Fillon, qui dirige l'école de l'ADN, ici même, dans ses locaux, à l'Espace Mendès France.
Voilà, ben bonsoir à tous. Alors, moi, je suis un peu en retard parce que je rentre d'un petit échange au plan B, en fait, où l'objectif, c'était de rencontrer trois petits groupes de 6 personnes pour leur présenter l'école de l'ADN. Puis alors, j'en ai profité à chaque fois, je me suis amusé à leur demander si on parlait d'épigénétique, si ça leur parlait et si ça leur évoquait des choses. Les 18 fois, c'est... Je ne sais pas trop ce que c'est que l'épigénétique. Donc, je vais souhaiter bon courage à Joëlle Roche pour essayer le plus simplement possible de justement vous expliquer ce qui se cache derrière ce mot épigénétique qu'on entend de plus en plus souvent. Hein. Donc, voilà. Je laisse la parole à Joëlle.
Bien, bonsoir à tous. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier l'Espace Mendès France et l'école de l'ADN pour avoir organisé cette soirée. Et puis, je voudrais déjà vous remercier d'être tous présents parce que quand j'avais proposé ce thème à l'Espace Mendès France, on m'avait regardé avec de gros yeux en me disant « Mais est-ce qu'il y aura quelqu'un à la conférence ?» Donc, je vois que vous êtes venus nombreux. J'espère que j'arriverai à vous expliquer un petit peu ce qu'est l'épigénétique parce que ce n'est pas une notion très facile. Donc, à l'aide d'exemples assez simples, j'espère que vous aurez une petite idée en sortant. Alors, pour faire une introduction à ma présentation, je ne vais pas parler, mais vous passez un petit film. Un petit film que j'ai choisi et qui parle de chats, parce que je sais qu'il y a dans la salle des amoureuses de chats. Donc, j'ai choisi un exemple de chat. Problème. Donc c'est un petit film de 2 minutes et demie qui va vous poser la question, qui va introduire l'épigénétique.
Même ceux qui n'aiment pas les chats seront sûrement intrigués, a l'air de me dire ma chatte Églantine. Pour moi, tout a commencé quand on m'a raconté cette histoire. Un petit garçon avait brutalement perdu son chat dans un accident. Il avait systématiquement rejeté tous les autres chats que ses parents lui avaient offerts pour le remplacer. Il restait inconsolable. Plus tard, devenu un riche homme d'affaires au Texas, il avait eu les moyens de financer la création d'un centre de recherche pour cloner ses chats. Il avait créé la société Genetic Saving and Clone pour proposer à des maîtres très fortunés de dupliquer leurs animaux de compagnie vieillissants ou parfois même décédés. Il leur avait expliqué que les gènes d'une cellule de leur animal adoré seraient placés dans le noyau d'un embryon et implantés dans l'utérus d'une mère porteuse. C'est ainsi que le premier chat cloné appelé Copy Carbone fut fièrement présenté à la presse en février 2002. Hélas, le résultat final était une petite chatte grise tigrée qui ne ressemblait absolument pas à sa donneuse génétique, une chatte rousse tachetée. Pourtant, la mère génétique et la petite chatte avaient les mêmes gènes, mais ce n'était donc pas suffisant pour qu'elles soient identiques. Depuis, je ne regarde plus Églantine, ma chatte tricolore, de la même manière. L'hérédité ne pouvait donc pas se réduire à nos seuls gènes. Mais alors, qu'est-ce que les généticiens cloneurs de chats avaient ignoré? Poussé par la curiosité, j'avais entrepris un voyage à la rencontre de grands scientifiques européens. C'est ainsi que j'ai découvert toute une vie cachée de nos gènes.
Donc, je vais reprendre la parole après cette introduction un petit peu rigolote pour introduire cette notion d'épigénétique. Donc, vous avez vu que le problème était posé pour ces chats qui ont exactement le même génome. La mère et le petit qui a été cloné, ils ont exactement le même génome et en revanche, ils ont des couleurs de pelage très différentes. Donc, comme il est dit dans le film, la génétique n'explique pas tout. De la même façon, chez l'homme, on a la même question lorsqu'on a affaire à des jumeaux homozygotes, c'est-à-dire de vrais jumeaux, qui ont exactement le même patrimoine génétique. Mais vous le savez très bien, de vrais jumeaux vont avoir des comportements différents, vont avoir peut-être un aspect différent au cours du temps, et puis vont surtout développer des maladies qui peuvent être différentes. Donc comment peut-on expliquer ce phénomène alors qu'ils ont le même génome? De la même façon, on peut se poser des questions lorsqu'on regarde le développement d'un embryon. Vous savez qu'à partir d'une seule cellule, cette cellule va se diviser pour donner naissance au fœtus, puis au bébé, à la naissance. Et ça veut dire qu'à partir d'une seule cellule qui se divise, un certain nombre de cellules vont avoir des chemins différents. Elles vont se différencier, pour certaines, former des organes, des tissus, dans lesquels il y aura des cellules qui auront des fonctions complètement différentes. Hein. Certaines vont devenir des cellules nerveuses, d'autres des cellules de peau, etc. Elles auront des fonctions complètement différentes, or le patrimoine génétique est le même. De la même façon, on peut se poser la question, comment se fait-il qu'une chenille devient un papillon? La chenille et le papillon ont le même génome. Leur aspect, leur phénotype est complètement différent. Et puis, vous connaissez tous cet exemple de chatte à couleur bicolore, écaille de tortue. Et tout le monde sait qu'en général, ce genre de chat est une femelle. Et puis, même chez les plantes, il y a des phénomènes qui font qu'il faut certaines conditions pour que la plante fleurisse. Alors, ces exemples semblent très différents. Or, il y a un mécanisme commun qui va gouverner tous ces phénomènes-là. Et si je pose la question, vous serez peut-être embarrassé pour me donner une réponse. En fait, la réponse est facile. Vous êtes ici pour entendre parler d'épigénétique. Donc, vous devez vous douter qu'il y a sûrement quelque chose à voir avec l'épigénétique. Donc, en fait, c'est tout à fait le cas. Et vous avez ici le titre d'un article du Monde de 2012 qui parle de l'épigénétique avec un titre assez provocateur, puisqu'il dit « une hérédité sans ADN ». Alors, c'est provocateur, évidemment, parce qu'on avait l'habitude du tout ADN. Et là, ce serait un phénomène qui permettrait de générer une hérédité sans l'ADN. Alors, ce sont des mécanismes qui ne modifient pas notre patrimoine génétique, mais qui jouent un rôle fondamental dans le développement, dans l'adaptation à l'environnement, par exemple. Et ils peuvent expliquer ces changements, comment on peut induire des changements stables des caractères et voir des maladies s'il y a des dérégulations. Et ces phénomènes sont de plus héritables sur plusieurs générations. Donc l'épigénétique, c'est un phénomène qui va pouvoir expliquer la diversité biologique. Alors, pour dire l'épigénétique, comme on l'a dit dans l'introduction, on en entend beaucoup parler. Peu de gens savent exactement ce qu'il y a derrière. Et ici, vous voyez que ce qui est représenté sur cette courbe, c'est le nombre des publications scientifiques par année. Tout ceci en tapant uniquement le mot « epigenetics » sur le site de PubMed. C'est le site américain sur lequel on fait notre bibliographie. Et donc, vous avez ici le nombre des publications par année. Vous voyez qu'à partir des années 80, l'échelle est tellement écrasée à ce niveau-là. Il y a vraiment très peu de publications, hein, une, deux, trois par an, pas plus. Et puis, on voit vraiment que le nombre de publications augmente à partir des années 2000, hein, depuis une dizaine d'années seulement. Et en 2013, on est à près de 2000 publications dans l'année. Pour 2014, on en attend beaucoup plus. Et puis, je dois dire que ce nombre est très certainement sous-estimé parce que dans certains articles qui parlent d'épigénétique sans avoir mis ce mot-là comme mot-clé vraiment, on passe à côté des articles. Donc quelque chose, enfin un domaine qui est en plein développement actuellement. Et même dans la presse, eh bien, il y a des articles de l'INSERM, des articles dans Le Monde, Sciences et Santé, Le Time, La Recherche. Ce sont uniquement quelques exemples que j'ai trouvés. Il y en a sûrement d'autres. Donc, pour dire qu'on en parle un peu partout. Alors, on en parle un peu partout, ça semble nouveau, mais en fait, c'est une très vieille histoire, puisqu'on a déjà évoqué l'épigénétique 350 avant Jésus-Christ par Aristote. Alors, Aristote, il avait inventé, lui, le mot d'épigénèse. Épi, en grec, ça veut dire au-dessus de, donc ça veut dire au-dessus de la génération. Parce qu'en fait, lorsqu'il a regardé des embryons de poulets, eh bien, il a bien compris que la forme des individus adultes n'était pas déjà imprimée, ne préexistait pas, n'était pas visible dans le germe. Donc, il fallait qu'il y ait acquisition de phénomènes au cours du développement. Donc, 350 avant Jésus-Christ. Et puis, il a fallu attendre 1942 pour que le généticien anglais Conrad Waddington utilise le mot épigénétique pour la première fois. Donc épigénétique au-dessus de la génétique. Alors à l'époque, c'était une idée assez nouvelle et en fait, on ignorait encore à ce moment-là que l'ADN était le support de l'hérédité. Donc il a proposé, sans savoir que l'ADN était le support de l'hérédité, un petit modèle qu'on a appelé le paysage épigénétique. C'est-à-dire qu'une cellule, au début, par exemple, du développement de l'embryon, une cellule eh bien, va pouvoir emprunter différents chemins. Alors, pour le groupe de randonneurs, ça doit parler. Il n'y avait pas de carte encore à l'époque. Mais la cellule va pouvoir utiliser un chemin et si elle en utilise un autre, eh bien, elle va acquérir de nouvelles compétences. Et au final, vous voyez que cette cellule-là va peut-être arriver à ce niveau-là et elle se sera différenciée en une cellule musculaire, par exemple. Et puis, si elle emprunte ce chemin-là, elle sera peut-être une cellule nerveuse. Donc, en fonction du parcours qu'elle va réaliser, elle va se différencier, acquérir des propriétés nouvelles. Et pour continuer dans cette idée d'épigénétique, il a fallu attendre finalement 2007, donc il n'y a pas si longtemps que ça, pour avoir la définition du généticien Adrian Bird, qui a défini l'épigénétique de cette façon. Donc je lis sa définition. Ce sont des événements épigénétiques. Les événements épigénétiques, pardon, sont des adaptations de la structure de régions chromosomiques afin d'enregistrer, de signaler ou de perpétuer des états d'activité altérés. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus dans ce mécanisme d'épigénétique pour vous expliquer comment il est réalisé. Mais pour cela, je vais me permettre de faire quelques rappels qui peuvent être utiles à certains. Quelques rappels qui concernent des définitions, définition de la cellule, des chromosomes, de l'ADN et des gènes. Alors, le corps humain, vous savez qu'il est formé d'organes et de tissus, et que dans ces tissus, il y a des cellules, et que le corps humain, à l'âge adulte, contient environ 100 000 milliards, c'est-à-dire 10 puissance 14 cellules. Parmi ces cellules, on en distingue à peu près 200 types, qui sont par exemple des cellules nerveuses, comme les neurones, des cellules du sang, comme les globules blancs, les lymphocytes, les hématies, les cellules musculaires, les cellules de la peau, les cellules du foie, etc. Donc, à peu près 200 types cellulaires dans le corps humain. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que toutes les cellules somatiques d'un individu ont le même patrimoine génétique. Or, elles ont des fonctions différentes et elles fonctionnent différemment parce qu'elles vont exprimer de façon sélective certains gènes. Et la question posée est comment peuvent-elles choisir les gènes qu'elles doivent exprimer pour devenir un neurone, pour devenir une cellule musculaire ? Alors, là encore, petite description de la cellule pour comprendre. La cellule eucaryote, c'est-à-dire cellule d'organisme qui possède un vrai noyau, donc ce n'est pas une organisation similaire qu'on a chez les bactéries, qui sont appelées des procaryotes, mais les cellules animales, les cellules végétales, sont dites cellules eucaryotes, eucaryotes parce qu'elles ont un noyau. ce noyau à l'intérieur de la cellule, qu'est-ce qu'il contient ? Eh bien, il contient les chromosomes. Alors, les chromosomes, vous les avez ici, chez l'homme. Nous avons 23 paires de chromosomes, une paire de chromosomes sexuels, qui sont les chromosomes X et Y. Donc, chez l'homme, il y a un X et un Y, et chez la femme, deux X. Et puis, il y a les 22 autres paires, qui sont appelées des autosomes. Et vous avez une paire qui est composée d'un chromosome qui provient de la mère et d'un chromosome qui provient du père. Alors, ces chromosomes, de quoi sont-ils composés ? Ces chromosomes sont composés d'ADN et de protéines. Alors, l'ADN, c'est le support de l'information génétique. Donc, vous avez ici le modèle de la structure de l'ADN. Il est formé d'unités de base qu'on appelle, ADN, c'est acide désoxyribonucléotidique. Et donc, l'unité de base de cet ADN, c'est les désoxynucléotides. Cet ADN, sa structure a été déterminée en 1953 par Watson et Crick, qui ont eu le prix Nobel en 1962. Alors, comment s'organise cet acide désoxyribonucléotidique ? Eh bien, il est composé d'une succession de désoxynucléotides. Chaque désoxynucléotide est formé d'un sucre, d'un groupement phosphate et de bases azotées. Il y en a quatre qu'on appelle l'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine. Et cet ADN forme une structure en hélice que vous avez tous dû voir. C'est-à-dire qu'il y a deux brins d'ADN que vous voyez ici qui sont associés l'un à l'autre. Alors, j'ai un peu du mal à tout faire parce qu'il faut que je garde le micro en même temps. Mais vous avez ici la structure de l'ADN. Donc, voici les deux brins d'ADN qui sont représentés ici par ce ruban métallique. Dans ce ruban métallique, vous avez le sucre et le groupement phosphate. Et puis, vous formez avec ces deux brins une sorte d'échelle où vous avez des barreaux. Et les barreaux, en fait, sont les bases azotées. Alors, les bases azotées vont s'associer. Elles ne s'associent pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a la base adénine qui s'associe à la thymine pour former un barreau. Et puis, les bases cytosine et guanine qui s'associent pour former les autres barreaux. Donc, vous avez une succession de barreaux. Ça définit des plans que vous voyez très bien ici sur la maquette, enfin sur le modèle qui est en train de tourner, où les bases qui sont les marches ici sont représentées en bleu. Alors, l'unité de base, je vous ai dit, c'est le désoxynucléotide. Et dans le génome humain, nous en avons 3,4 milliards. Alors, je vous ai dit que l'ADN, c'était le support de l'information génétique. Pourquoi ? Bien parce que dans cet ADN, il y a ce qu'on appelle des gènes. Donc, les gènes sont de deux types. Ceux auxquels on pense le plus souvent, c'est les gènes qui donnent une information à la cellule pour produire une protéine. Donc, pour simplifier, je dirais que l'expression de ce gène se fait sous la forme d'une protéine. Alors, l'expression de ce gène sous la forme d'une protéine ne se fait pas en une seule étape. À partir de l'ADN, il y a dans la cellule un mécanisme qu'on appelle la transcription qui va permettre d'obtenir un intermédiaire qui s'appelle l'ARN messager. Cet ARN messager, on l'appelle codant parce qu'il est capable de donner une information pour pouvoir produire par l'étape qu'on appelle la traduction une protéine. Et les protéines sont un enchaînement d'acides aminés. Donc la découverte de l'ARN a été réalisée en 1900 par François Jacob, Jacques Monod et André Le Wolf, qui ont réussi aussi un prix Nobel en 1965. Donc comment est réalisé le passage de l'ARN à la protéine ? Eh bien par ce qu'on appelle le code génétique. Donc, le code génétique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un signal dans l'ARN messager qui est représenté par un codon. Un codon, c'est une succession de trois nucléotides. Et vous voyez que vous avez les lettres A, U, G, G, etc. Si vous rappelez la structure de l'ADN, il n'y a pas de U dans l'ADN, mais il y a un T. C'est la différence entre l'ADN et l'ARN, où le T est remplacé par une autre base qui s'appelle l'uracile, et c'est de l'acide ribonucléique. Donc un codon, par exemple ici AUG, donc un triplet, va permettre d'incorporer un acide aminé spécifique. Et on sait par exemple que le code AUG permet d'incorporer un acide aminé qui s'appelle la méthionine dans les protéines. Donc vous avez toutes les autres combinaisons possibles. Et à chaque combinaison va correspondre un acide aminé, ce qui va permettre, à partir d'une séquence d'ARN messager, de produire une protéine. Donc ça, c'est le premier type de gène. Il y a un autre type de gène qui, cette fois-ci, ne produit pas de protéines, mais à partir de ces gènes-là, on s'arrête à l'étape de transcription et on a un ARN qui n'est pas appelé un ARN messager parce qu'il n'est pas codant, mais c'est un ARN qui est néanmoins fonctionnel. Et depuis très peu de temps, on sait qu'il y a beaucoup plus d'ARN, de gènes, qui produisent des ARN non codants que ce qu'on pensait il y a quelques années. Donc ce phénomène-là est un phénomène assez récent et on arrive dans un monde d'ARN maintenant parce qu'il reste à découvrir leur fonction. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans le génome humain, comme je vous le disais jusqu'à présent, on parlait de 20 000, un peu plus de 20 000 gènes qui codent pour des protéines. Bien maintenant, on sait qu'il y en a à peu près autant qui vont être transcrits en ARN non codant. Et ces ARN, ces gènes codants, en fait, eh bien, ici, vous avez sur ce cercle-là tout le génome humain qui est représenté, les 3,4 milliards de désoxynucléotides. Eh bien, la partie codante, la partie qui est directement transcrite, enfin, copiée en protéines, eh bien, c'est moins de 2% du génome. Donc, tout le reste, à part quelques séquences régulatrices, quelques pourcents, eh bien jusqu'il y a quelques années, et moi quand j'étais étudiante aussi, on m'a appris que tout cet ADN ne servait à rien, que c'était de l'ADN poubelle, et les anglo-saxons appelaient ça même le junk DNA, pour dire que vraiment ça ne servait à rien. Et puis, vous savez sans doute que le génome humain a été séquencé, que le séquençage a été rendu public et analysé depuis 10 ans à peu près, et on s'est aperçu qu'en fait, il y a 76% du génome qui est fonctionnel et qui est transcrit en ARN. C'est quelque chose qu'on ignorait il y a 10 ans. Donc ça veut dire aussi que la biologie, c'est un terrain extrêmement qui évolue extrêmement rapidement. Et depuis ces quelques années, les connaissances augmentent très rapidement. Donc pour en revenir maintenant à l'épigénétique, on va rentrer dans le vif du sujet. L'ADN d'une cellule humaine, enfin, qui est contenue dans le noyau d'une cellule, si on étirait cette fibre, enfin, si on débobinait cette fibre d'ADN, bien, elle aurait une longueur de 2 mètres de long. En revanche, le noyau dans lequel est empaqueté cet ADN a un diamètre de 10 micromètres, c'est-à-dire un centième de millimètre. Donc vous doutez bien que pour que cet ADN puisse rentrer dans le noyau, il va falloir qu'il soit compacté. Alors, je vais essayer d'illustrer avec mes ficelles et mes petites boules ce qui se passe dans le noyau de la cellule. Alors, c'est difficile avec le micro pour tout faire en même temps. Alors, imaginez que l'ADN, c'est cette ficelle. Cet ADN, il doit être contenu dans le noyau. Donc, le noyau... J'ai trouvé une petite boule, c'est le moment de Noël, donc il y a plein de décorations dans les magasins, je peux vous indiquer toutes les adresses. Donc cet ADN, vous pouvez penser qu'il va être contenu dans le noyau de cette façon-là, complètement compacté de façon complètement aléatoire. En fait, ça ne se passe pas du tout de cette façon-là. L'ADN n'est pas comme ça dans le noyau. Alors comment est empaqueté l'ADN ? Eh bien, il est empaqueté en une structure, un premier niveau d'organisation, c'est ce qu'on appelle le nucléosome. Le nucléosome, je vais vous le représenter aussi très schématiquement. Je vais y arriver. Bon, ma souris. Voilà, le nucléosome. Donc, imaginez une structure circulaire, donc ma petite boule là, qui est formée de protéines. Cette structure protéique va permettre à l'ADN, cette fois-ci je l'ai représenté par du fil de fer, j'ai essayé de représenter les deux brins qui s'enroulent, comme le modèle ici que vous avez sur la table. Donc cet ADN, il va s'enrouler autour de cette structure protéique et il ne va pas s'enrouler n'importe comment. Il va s'enrouler en faisant régulièrement deux tours autour de cette particule protéique. Et puis, au point d'entrée et de sortie de cette structure, eh bien, l'ADN va être maintenu par une autre protéine extérieure à ce cœur protéique blanc. D'accord ? Alors, pour arriver à ce schéma-là, et vous expliquer un peu plus, ma petite boule blanche ici, c'est ce qui est en rouge sur le schéma, eh bien, les protéines qui sont contenues dans cette boule sont appelées des protéines histones. Des histones, il y en a quatre dans ce cœur protéique, représentées sous la forme de deux copies chacune, et elles s'appellent H2A, H2B, H3 et H4. Donc elles forment cet octamère de protéines autour duquel s'entoure l'ARN sous la forme de deux spires. Et la quantité d'ADN enroulée autour de cette particule cœur est stable. Elle représente à peu près 180 à 200 désoxynucléotides, c'est-à-dire l'élément de base ici de cette structure d'ADN. Et au point d'entrée de sortie de la structure, eh bien, il y a une cinquième histone qui s'appelle l'histone H1 qui vient un petit peu maintenir l'ADN autour de cette structure. Et c'est cet ensemble-là qu'on appelle le nucléosome. Alors, ce schéma est très simple, il n'est pas tout à fait juste, parce que cette petite boule-là, eh bien, elle n'est pas aussi régulière que ça. En fait, on sait maintenant que dans ce cœur protéique, il n'est pas très régulier, il y a des parties de l'histone, des queues d'histone, qui sortent de la particule, et ces séquences protéiques vont pouvoir établir des contacts avec l'ADN. Donc ce sont les queues d'histone qui vont permettre de maintenir ou non l'ADN enroulé autour de cette particule cœur protéique. D'accord ? Alors maintenant, vous allez me dire, eh bien, qu'est-ce qu'il arrive une fois que ce nucléosome est formé ? Alors vous pourriez penser, donc je ressors mes décorations de Noël, que vous avez une succession de nucléosomes. Donc maintenant, sur les petites boules, hein, j'ai changé d'échelle. Donc vous pouvez penser que votre chromosome, qui est sous cette forme-là, eh bien, il va être mis dans le noyau comme ceci. Hein, bon. D'accord ? Eh bien, ça ne se passe pas comme ça, là encore. Il y a une organisation de cette structure en nucléosome. Et elle ne se fait pas au hasard. Donc elle se fait, il y a un enroulement de cette structure nucléosomique sous la forme, vous voyez, je me suis beaucoup amusée, sous la forme, les nucléosomes qui sont toujours mes petites boules blanches avec l'ADN rouge qui fait deux tours de spire, eh bien, ces nucléosomes vont former une spirale. Et la spirale, elle est bien structurée, elle a six nucléosomes par tour. Hein, donc vous imaginez une spirale, je n'ai pas été au-delà de six parce que ça devenait un peu compliqué, hein. Mais cette structure-là s'appelle le solénoïde. Et cette structure-là, elle est ensuite enroulée et surenroulée pour être contenue dans l'ADN, enfin dans la structure la plus condensée qui existe, c'est celle que vous connaissez sans doute, c'est celle du chromosome qui est en cours de réplication. C'est la structure la plus condensée de la chromatine. Donc, je ne l'ai peut-être pas dit, mais l'ensemble protéines plus ADN s'appelle la chromatine. Et donc là, vous l'avez, la chromatine est sous forme de chromosome au moment de la division cellulaire. Lorsque la cellule ne se divise pas, l'ADN est beaucoup plus diffus dans la cellule. Alors, il va se poser une question, bien évidemment, c'est comment, je vous l'ai dit, les gènes sont répartis dans cette masse d'ADN comment se fait-il que des gènes puissent être exprimés? Comment la cellule peut-elle sélectionner les gènes qu'elle va exprimer? Quand on a une structure, et là je ressors une autre guirlande, hein, quand vous avez une structure qui est hyper condensée comme ça, si vous avez un gène qui est coincé là au milieu, comment la cellule va-t-elle faire pour avoir accès à cette séquence génomique et permettre l'expression du gène? Sachant que pour exprimer un gène, il faut que l'ADN soit plus ou moins dissocié de ce cœur protéique, soit plus ou moins libéré, et qu'en plus, cet ADN, pour qu'il soit transcrit, il faut en plus que les deux brins puissent s'ouvrir. Hein ? Donc il va y avoir des mécanismes qui vont faire que les particules cœur vont être plus ou moins dissociées de l'ADN et que cet ADN soit libéré pour que la machinerie de la cellule puisse transcrire cet ADN en ARN, sachant que les complexes protéiques qui réalisent ce travail, l'usine qui va fabriquer l'ARN à partir de l'ADN, est beaucoup plus gros que ce nucléosome. Eh bien, les phénomènes qui vont permettre de changer l'empaquetage de l'ADN au sein de la chromatine, c'est ce qu'on appelle les phénomènes épigénétiques. Alors, les phénomènes épigénétiques, eh bien, ils se traduisent par des altérations sur la séquence de l'ADN. On ne change pas le brin d'ADN que vous avez ici, on ne change pas un nucléotide par un autre. La seule chose qu'on change, c'est qu'on peut rajouter des groupements méthyl, donc un groupement CH3 uniquement, sur certaines bases de l'ADN. Et puis, au niveau des nucléosomes, je vous avais dit qu'il y avait toutes ces petites queues qui sortent de la structure protéique et qui peuvent interagir avec l'ADN. Eh bien, ces petites queues d'histones vont être modifiées par des groupements chimiques. Et il y aura un certain nombre d'enzymes, de protéines, qui vont mettre des marques sur ces queues d'histones. Et on connaît à ce jour 78 protéines enzymatiques qui vont apporter des marques. Comme ces phénomènes sont réversibles, il y a aussi toute une série de protéines qui vont effacer les marques, qui vont les enlever, il y en a 43. Et en plus, il y a toute une série de protéines de lecture qui vont venir reconnaître ces marques pour recruter ensuite les complexes de la machinerie de la cellule pour permettre la transcription, c'est-à-dire de transmettre le signal d'un gène vers l'ARN puis les protéines. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre à tout moment. Ce n'est pas la peine que je continue s'il y a des choses un peu trop difficiles, autant que je l'explique tout de suite. Et là, bon, c'est un exemple, un schéma récapitulatif qui vous montre toutes les modifications possibles sur ces queues d'histone. Donc, vous retrouvez ici la particule cœur, ma petite boule blanche, hein, avec les 8 histones, l'ADN qui s'enroule en autour, le blocage par l'histone H1 ici, et puis les queues d'histone qui sortent de la particule cœur. Et vous avez représenté ici toute une série de marques que je ne vais pas vous détailler, mais c'est l'acétylation, la méthylation, la phosphorylation, la citrullation, enfin, il y en a je ne sais combien, donc je ne vais pas vous les détailler. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un certain nombre de ces marques que vous avez ici qui vont donner un signal positif à la cellule pour que les gènes soient actifs, pour que la structure de la chromatine soit débobinée, pour que l'ADN soit accessible aux phénomènes d'expression, de réplication, de réparation de l'ADN. Et puis, il y a une autre série de marques qui, au contraire, vont donner un signal négatif, c'est-à-dire qu'ils vont condenser la chromatine, c'est-à-dire que quand vous avez le nucléosome ici, eh bien, l'ADN va être bien collé à la structure protéique et tous les phénomènes de transcription ne pourront pas avoir lieu. Donc au final, eh bien, on parle du code des histones. Donc, je vous ai sorti un code à barre d'un produit, je ne sais pas lequel, peu importe. C'est une image qui vous montre que chaque nucléosome donne un code à la cellule pour dire dans quel état est le nucléosome, dire si cette région doit être ouverte ou non, si elle doit être exprimée ou non, en fonction des besoins de la cellule et en fonction des signaux qu'elle reçoit. D'accord ? Donc, je vous ai présenté deux types de phénomènes épigénétiques qui sont modification chimique des histones et méthylation de l'ADN. Il y a d'autres phénomènes, notamment la possibilité d'avoir des variants d'histone, c'est-à-dire que dans cette petite boule blanche, eh bien, il y a des protéines un petit peu différentes qui peuvent s'échanger, par exemple. Et puis, il y a des phénomènes de méthylation de l'ARN qui peuvent intervenir. Et surtout, ce qu'il y a de nouveau, comme je vous le disais, c'est la participation de ces ARN non codants. Et puis, il y a aussi des protéines qui vont permettre le remodelage de la chromatine. Alors, remodelage de la chromatine, je vous ai dit qu'il y avait des modifications sur cette petite boule blanche. Eh bien, en fonction de ces modifications, il y a des protéines qui vont pouvoir venir et qui vont carrément remodeler la chromatine, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir carrément enlever le nucléosome, enfin la structure protéique. Et dans ce cas-là, l'ADN va être débobiné et va pouvoir s'ouvrir pour permettre la transcription. C'est une possibilité. Ou alors, ces protéines de remodelage vont déplacer la particule cœur pour libérer un espace libre d'ADN. Alors, en ce qui concerne les ARN non codants, je vois qu'il y a certains de mes étudiants ici à qui j'ai parlé d'ARN non codants, donc je voudrais faire une petite piqûre de rappel. Je dirais que l'histoire des ARN non codants, c'est vraiment la face cachée de l'iceberg, parce que on découvre de plus en plus, des ARN non codants qui participent aux régulations épigénétiques. Et donc, avec les étudiants, on a travaillé sur un ARN particulier, non codant, qui s'appelle HOTR. Et c'est un ARN non codant qui est surexprimé, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux de cet ARN non codant beaucoup plus importants que la normale dans des cas de cancer du sein, très agressif et qui métastase, c'est-à-dire qu'il y a des tumeurs qui vont se développer dans d'autres organes. Donc ça veut dire que les cellules tumorales sont capables de quitter la tumeur primaire pour aller coloniser d'autres tissus. Et dans ces cancers du sein très agressifs, le niveau de HOTR est très fortement corrélé avec le niveau d'agressivité de ces tumeurs. Et au niveau de la fonction, on s'est aperçu que ces ARN non codants servaient en quelque sorte de véhicule pour aller recruter ces protéines d'écriture de marque sur les histones. Et donc, HOTR recrute un complexe particulier qui va venir méthyler des histones dans des régions particulières du génome, et notamment au niveau de signaux proches de gènes qui doivent normalement être exprimés pour que la cellule tumorale ne puisse pas s'échapper de la tumeur primaire. On appelle ces gènes des gènes suppresseurs de métastase. Et le fait qu'il y ait une surméthylation de cette région, eh bien, ça a pour conséquence que ces gènes suppresseurs de métastases, donc qui empêchent la formation de métastases, ne sont plus exprimés. Donc la surexpression de HOTR, qui en lui-même n'est pas traduit en protéines, mais qui sert de véhicule à ces enzymes épigénétiques, va faire que ces gènes vont être réprimés, particulièrement dans ces tumeurs qui expriment ce haut niveau d'ARN. Donc vous voyez toute l'importance de ces ARN non codants. Donc, pour résumer, je dirais que lorsqu'on a un gène qui est enfoui dans la chromatine, pour que la chromatine s'ouvre, pour qu'elle soit accessible à la fonction de la cellule, eh bien, il y a des signaux qu'on peut représenter. Il y a un accès qui est possible ou non, donc qui est représenté par cette porte. Cette porte, c'est le nucléosome, donc la petite structure dont je vous ai parlé. Pour pouvoir avoir accès au gène, eh bien, il faut pouvoir ouvrir la porte. Et comment peut-on ouvrir la porte? En utilisant la poignée. Et pour qu'elle fonctionne, eh bien, il faut qu'il y ait certaines modifications d'histone pour que la poignée fonctionne. Et puis, l'autre phénomène, c'est la méthylation de l'ADN, qui sert en quelque sorte de cadenas, qui va bloquer la structure dans un état actif ou non actif. Donc, il faut vraiment voir ce nucléosome comme un élément structural, mais qui va moduler l'accessibilité de l'ADN, qui va moduler la structure de la chromatine et permettre le fonctionnement normal de la cellule. Alors, ces phénomènes épigénétiques, ce sont des phénomènes absolument normaux et naturels qui sont impliqués dans le développement. Je vous ai parlé du développement de l'embryon, pour que les cellules se différencient, pour qu'elles deviennent une cellule nerveuse, une cellule de foie, etc., ou de peau. Eh bien, il faut qu'il y ait une sélection de gènes au cours du développement. Ce phénomène se produit aussi dans les cas d'inactivation du chromosome X chez les femelles de mammifères. Se produit aussi dans des phénomènes d'empreinte parentale, en neurobiologie, dans le cas de l'apprentissage, de la mémoire, de l'addiction aux drogues, dans les diabètes, et puis d'autres maladies pour lesquelles on n'a pas encore bien déterminé quel phénomène épigénétique était impliqué. Alors, voyant l'importance de ces phénomènes, vous vous doutez bien que s'il y a des anomalies de régulation épigénétique, eh bien cela va conduire à des pathologies. Celle qui est la plus connue comme étant une pathologie, étant la conséquence de phénomènes épigénétiques, entre autres, c'est le cancer ou les cancers, la résistance aux traitements anticancéreux, les maladies du neurodéveloppement, les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, Parkinson. On sait maintenant qu'il y a des défauts, des anomalies épigénétiques au cours du développement de ces maladies, le diabète et puis encore d'autres maladies qui restent à étudier. Alors, je vais vous donner quelques exemples épigénétiques qui sont assez parlants. C'est par exemple l'inactivation de l'un des chromosomes X chez les femelles de mammifères. Donc, c'est un travail qui a été publié par Marie-Frances Lyon en 1961 dans la revue Nature. Elle a eu du mal à faire passer ses idées, d'ailleurs. Et c'est elle qui a proposé que chez les femelles de mammifères, y compris chez la femme, bien sûr, eh bien, il y a deux chromosomes X, comme vous le savez. Il y a un des deux chromosomes X qui doit être inactivé pour qu'il y ait une compensation avec le génome mâle où il n'y a qu'un chromosome X. Donc, on sait maintenant que son hypothèse a été complètement vérifiée et que l'inactivation du chromosome X est associée à une méthylation de l'ADN. Et cette méthylation de l'ADN est provoquée notamment avec la participation d'un ARN non codant. Donc, on retrouve là encore le rôle d'ARN non codant pour induire ces phénomènes. Alors, un exemple très parlant pour vous, tout le monde sait, que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces chats aux couleurs écailles de tortue sont des femelles. J'ai toujours entendu ça depuis ma tendre enfance. Chez mes grands-parents, il y avait des chats. Quand un chat naissait de cette couleur, on disait c'est une femelle. Ça m'avait toujours interrogée. Il a fallu un certain nombre d'années pour que je comprenne. Eh bien, effectivement, ce sont des femelles. Pourquoi ? Eh bien, les femelles sont XX. Sur le chromosome X, il y a un gène qui est responsable de la couleur qui peut se présenter sous deux formes. La forme grand B qui va donner une couleur orange ou la forme petit b qui donne une couleur noire. Je vous ai dit qu'au cours du développement de l'embryon, les cellules vont inactiver au hasard l'un des deux chromosomes X. Donc vous aurez des cellules qui vont inactiver le chromosome orange. Et puis ces cellules vont se diviser et donc elles n'auront que le chromosome X avec le petit b ici qui donne la couleur noire. Donc au niveau de ces cellules-là, sur la peau du chat, eh bien, la fourrure sera noire. Et puis en revanche, vous aurez à d'autres endroits sur le corps, l'inactivation, comme je vous l'ai dit, se fait au hasard, vous aurez l'inactivation du chromosome noir ici qui porte le gène sous la forme petit b qui donne la couleur noire. Donc il n'y aura que ce chromosome X qui porte la couleur orange qui va être actif. Et donc ces cellules, au niveau de la fourrure, eh bien, vont donner la couleur orange. Donc ceci explique pourquoi ces animaux ont des taches noires et oranges dans leur fourrure. C'est un phénomène épigénétique lié à l'activation du chromosome X. Alors, vous allez me dire... D'où viennent ces modifications épigénétiques ? Par quoi sont-elles apportées ? Eh bien, on sait maintenant que l'alimentation a un rôle dans ces modifications épigénétiques, parce que ces groupements méthyl, qui sont apportés aussi bien sur l'ADN que sur les histones, ils proviennent d'une forme activée d'un acide aminé qui s'appelle la méthionine. Donc, cette forme activée, c'est la S-adénosylméthionine. Et cette méthionine, eh bien, vous la trouvez dans votre alimentation. Intervient aussi dans le métabolisme de la méthionine l'acide folique, qui est aussi appelé vitamine B9. Et donc, il est recommandé de ne pas avoir de carence en acide folique et en méthionine pour avoir des... Bon, maintenant, on le sait aussi que ça sert à ces phénomènes épigénétiques, l'addition de groupements méthyl sur l'ADN et sur les histones. Donc, on conseille, par exemple, aux femmes enceintes à prendre de l'acide folique, la vitamine B9, pour le développement de l'embryon, l'acide folique participant à la synthèse de l'ADN aussi. Alors, oui, une question ? Quel genre d'alimentation vous avez de l'acide folique dans la levure, par exemple, dans les légumineuses, dans les lentilles, dans les pois, dans le foie, dans les œufs Donc, à vrai dire, vous mangez vous avez une alimentation équilibrée, vous avez de l'acide folique et de la méthionine. Hein. D'accord. Alors, la question qui se pose aussi, est-ce que ces marques épigénétiques sont transmises ? Et est-ce que même les habitudes alimentaires paternelles peuvent influencer le patrimoine et la santé des enfants ? Donc là, il y a peu d'études qui ont été réalisées dans ce domaine, mais néanmoins, il y a une étude qui a été réalisée en 2005 à l'université d'Umeå en Suède, où les auteurs de ce travail se sont intéressés à un petit village de Suède où la qualité, la quantité des récoltes a été très bien documentée de la fin du 18e au début du 19e siècle. Et ces auteurs ont vu que le régime alimentaire des garçons à un âge bien déterminé avant la puberté, entre 8 et 11 ans, par exemple, avaient des répercussions sur la santé de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Ils ont même montré que jusqu'aux petits-enfants, il pouvait y avoir des répercussions. Ils ont montré que les petits-enfants avaient 4 fois plus de risques de diabète, de décès dû à un diabète que la population générale et avaient une durée de vie un peu réduite si le grand-père avait eu une alimentation très riche à cette période, entre 8 et 11 ans. Hein? Donc, on pense que les marques épigénétiques peuvent être transmises à la descendance. Et puis, pour continuer dans l'alimentation, vous connaissez tous les ruches, vous savez qu'il y a des abeilles, mais il y a une reine. Et on peut se poser la question, pourquoi une reine ? Une reine qui est fertile, qui permet la reproduction des abeilles alors qu'elle a le même patrimoine génétique que les ouvrières. Eh bien, la différence entre une ouvrière et la reine, c'est qu'elle est nourrie. La reine est nourrie de façon différente. Elle est nourrie uniquement de gelée royale. Et on sait que dans la gelée royale, eh bien, il y a un produit qui va empêcher la méthylation de l'ADN et de ce fait va réactiver les gènes de la reproduction, ce qui fait que la reine est fertile. Et c'est la différence avec les abeilles qui, elles, n'ont pas de gelée royale comme alimentation unique. D'accord ? Donc, ça se passe chez les abeilles, n'extrapolez pas. Et puis, le rôle de l'environnement, le bisphénol A, vous en avez tous entendu parler. Donc, c'est un produit que nous ingérons tous, que les bébés ont eu dans leur biberon, puisque c'est un composé des plastiques. Il a été interdit récemment pour les biberons. Mais il reste toujours présent dans les revêtements intérieurs des boîtes de conserve. Donc, chaque fois que vous mangez des conserves ou que vous buvez un Coca-Cola dans une canette, vous avez du bisphénol A. Il est aussi présent sur les tickets de caisse dans les magasins quand vous avez des papiers thermosensibles. Enfin, je ne sais pas où il y a la chaleur qui intervient. Donc, il y a du bisphénol A dans ces papiers. Donc, vous avez du bisphénol A un peu partout. Eh bien, on s'est demandé ce que ce bisphénol-là pouvait avoir comme conséquence. Et vous avez ici l'exemple de deux souris, la souris 1 et la souris 2. La souris 2 provient d'une portée d'une femelle qui a été nourrie normalement. La souris 1 vient d'une portée d'une femelle à laquelle on a rajouté du bisphénol-là dans son alimentation. Donc, vous voyez que cette femelle qui a eu du bisphénol-là, eh bien, elle a des portées avec des animaux qui ont changé de couleur. Ça, c'est pas trop grave. Hein. Je pense pas que psychologiquement, la souris, ça l'atteint beaucoup. Mais ce que vous voyez, c'est que la souris, elle est obèse. Elle va développer un diabète et elle aura beaucoup plus de chances, enfin plutôt de malchance, de développer un cancer. Alors, comment peut-on expliquer ça ? Eh bien, il y a une explication qui a été trouvée pour la couleur. Alors, la couleur, il faut dire qu'elle est due à un gène qui s'appelle agouti. Et ce gène agouti, chez la souris marron, normale, ce gène n'est pas exprimé et l'ADN est méthylé. Quand on fait absorber du bisphénol A à la mère gestante, eh bien, il va y avoir une déméthylation de l'ADN, et notamment au niveau du gène agouti. Ce gène va être déméthylé, va être exprimé et va être responsable de la couleur orange. Donc, c'est un exemple au niveau de la couleur. Comme je vous l'ai dit, ces souris sont obèses, elles ont des problèmes de métabolisme, elles ont des problèmes de diabète, elles développent des cancers. Donc, ça veut dire qu'il y a une déméthylation de l'ADN qui va toucher bien d'autres gènes, donc qui va perturber considérablement le comportement de ces souris. Alors, l'histoire pourrait être dramatique. Ce qu'il y a quand même, c'est qu'on peut réverser le phénomène, c'est-à-dire que ces souris qui ont eu du bisphénol dans leur alimentation, si on supplémente leur nourriture en rajoutant de l'acide folique, par exemple, et de la vitamine B12, eh bien, ces souris vont de nouveau donner des sens à des souris marrons, petites, et qui ne sont pas malades. Donc, ça n'est pas irrémédiable, et on peut donc inverser le phénomène. Et puis, le stress, j'ai trouvé que ça pouvait être un sujet d'actualité pour certains, le stress. Alors, le stress, c'est un phénomène naturel, on est tous soumis au stress, un petit peu, c'est bien, parce que comme ça, on est un peu réactif, on est un peu vivant, on est un peu éveillé. Mais trop de stress, ça peut un peu perturber l'individu, le fatiguer, il devient anxieux, etc. Et puis on peut aller jusqu'au burn-out, enfin, ça peut être assez dramatique. C'est aperçu, donc, quand on est stressé, on sécrète des hormones, les hormones du stress. Et lorsqu'on soumet des souris à une exposition chronique à ces hormones de stress, eh bien, on se rend compte qu'elles sont de plus en plus sensibles au stress. Et au niveau de leur génome, là encore, il y a des gènes qui vont être déméthylés et qui vont être responsables de ces réactions. Donc, je vous parle souvent de méthylation et pas des autres marques, parce qu'en fait, historiquement, la méthylation de l'ADN, c'est un phénomène qu'on connaît depuis assez longtemps, qui est assez bien étudié. On a des outils pour analyser la méthylation qui sont plus faciles à utiliser que de regarder des marques sur des histones, par exemple. Donc vous voyez que l'environnement va pouvoir jouer sur ces modifications épigénétiques et en modifiant l'accessibilité de notre ADN dans la chromatine, eh bien il y aura des groupes de gènes qui vont être exprimés ou réprimés au contraire et qui vont être responsables de réactions qui peuvent être pathologiques. Alors maintenant, dernier exemple épigénétique, c'est lorsque vraiment tout va mal dans la cellule, qu'il y a des mutations génétiques. Cette fois-ci, vous allez altérer votre séquence d'ADN. Hein. Si je reprends mon modèle ici, vous allez casser cette molécule, vous allez éliminer des barreaux, vous allez en remplacer certains par d'autres, et ces mutations, vous allez les garder, quoi que vous fassiez, dans votre cellule cancéreuse. Et puis, vous pouvez aussi avoir des modifications épigénétiques. Et l'ensemble, quand tout est vraiment trop dérégulé, vous allez complètement perturber le génome, son expression, et la cellule peut devenir cancéreuse. Alors, au niveau du cancer et des phénomènes épigénétiques, c'est là qu'on a le plus de résultats. On sait maintenant qu'il y a un certain nombre de mutations qui vont toucher directement ces phénomènes épigénétiques. Donc, il y a des mutations des enzymes qui vont faire l'écriture de ces marques au niveau de la méthylation de l'ADN. Vous avez des mutations qui vont toucher les enzymes d'écriture et d'effacement de marques sur les histones. Et puis, vous avez aussi des modifications, des mutations qui vont toucher des protéines de remodelage, enfin les gènes qui codent pour les protéines de remodelage, et qui vont empêcher le déplacement des nucléosomes normales au sein de la chromatine. Donc, pour les personnes un peu plus au fait de l'épigénétique, dans les glioblastomes, qui sont des tumeurs du cerveau très agressives, eh bien on sait qu'il y a certains patients chez lesquels il y a des mutations d'un gène qui s'appelle l'isocitrate déshydrogénase, qui est une enzyme du métabolisme, et qui aura pour conséquence une hyperméthylation de l'ADN et des histones. Dans des gliomes, les formes chez des enfants pédiatriques, on sait qu'il y a une mutation carrément d'une histone H3. Et cette mutation est un élément très important pour le développement de ce type de tumeur. On sait aussi que dans les leucémies, eh bien dans 10% des leucémies, il y a un gène qui conduit à une écriture d'une marque, d'une méthylation, qui s'appelle, pour les gens qui connaissent, MLL, pour c'est une transférase de groupement méthyle sur les histones, eh bien, dans 10% des leucémies, ce gène MLL est perturbé, cassé, non fonctionnel. Et enfin, dernier exemple, mais il y en aurait toute une liste, dans certains cancers du poumon, certains patients montrent une mutation dans un gène de remodelage de la chromatine. Donc dans chaque tumeur, il peut y avoir des mutations dans des gènes qui sont impliqués dans la régulation de ces phénomènes épigénétiques. Donc la connaissance des marques épigénétiques dans les cancers est importante actuellement parce qu'elle peut aider au diagnostic, elle peut aider au pronostic et elle peut aussi aider pour estimer la réponse au traitement. Alors comment fait-on ? Eh bien à partir d'un patient qui est atteint d'une tumeur, on peut récupérer au cours de la chirurgie la tumeur, ou on peut faire des biopsies, c'est-à-dire un prélèvement de la tumeur, ou on peut prendre du sang ou de l'urine de ce patient. Et à partir de ces échantillons biologiques, eh bien on peut réaliser un profil épigénétique, c'est-à-dire qu'on va regarder un certain nombre de ces marques. Ou alors, si on sait que tel ou tel gène est susceptible d'être muté ou telle marque est susceptible d'être changée dans la tumeur, eh bien, on va la regarder plus spécifiquement. Et il y a des exemples d'application de ces études. Par exemple, dans le cancer de la prostate, à partir de l'urine de patient, eh bien, il y a un gène qui est impliqué dans la détoxification des tissus. Eh bien, dans l'urine, si on voit que dans les cellules qui sont présentes dans l'urine, eh bien, si on voit que ce gène est méthylé, c'est un bon indice pour un cancer de la prostate. Lorsqu'on fait les profils épigénétiques, on peut aussi, parmi les patients cancéreux, proposer à certaines personnes qui ont certains profils d'entrer dans des essais cliniques pour évaluer certains traitements, certains essais de traitements nouveaux. Et puis, dans le cas des gliomes, ces tumeurs du cerveau particulièrement agressives, eh bien, on sait que si ce gène MGMT, qui est un gène impliqué dans la réparation de l'ADN, si on sait qu'il est méthylé, eh bien, on sait que les patients vont répondre assez bien à certains traitements qui visent à casser l'ADN. Donc, comme la cellule ne peut plus le réparer, ça veut dire que la cellule tumorale, dans ce cas-là, aura plus de chances d'être tuée. Donc, vous voyez les applications au niveau thérapeutique des connaissances de ces marques épigénétiques. Alors, les thérapies épigénétiques, il y en a actuellement. Il faut bien évidemment évaluer l'efficacité de ces thérapies et peser le pour et le contre en évaluant les effets secondaires. Il faut, à mon sens, vraiment connaître les anomalies épigénétiques qui sont en cause dans ces tumeurs. Et puis aussi, il faudrait, lorsqu'on a identifié les responsables des anomalies épigénétiques, avoir des drogues, soit qui les inhibent, soit qui les activent, en fonction de la mutation qu'elles ont, et que ces drogues soient spécifiques. Et actuellement, on est loin d'avoir atteint ce niveau de précision, et on n'a pas des drogues tout à fait spécifiques de ces marques épigénétiques. Alors, ça, c'est une image un petit peu compliquée, mais qu'est-ce qu'on peut cibler comme partenaire épigénétique ? Vous reconnaissez ici les petits nucléosomes que je vous ai montrés tout à l'heure. Eh bien, on peut, par exemple, inhiber ces enzymes qui provoquent la méthylation de l'ADN. Donc, il y a ici toute une série de drogues. Il y en a deux, comme le Vidaza et la Decitabine, qui ont été approuvées par la FDA, la Food and Drug Administration, en 2004. Et qui sont données maintenant aux patients cancéreux pour des pathologies bien particulières. Et puis, il y a toute une série de produits. Là, c'est un article de 2011, donc la liste s'est allongée, bien sûr. Dans la liste, peut-être, vous connaissez le GCG. Le CGC, c'est un produit qui est dans le thé vert, par exemple. Donc, ce produit est actuellement en essai clinique. Et puis, on peut cibler toutes les enzymes qui vont apposer une marque sur les queues d'histone et celles qui sont les plus en vue actuellement sont les enzymes qui apportent le groupement acétyl ou qui, au contraire, enlèvent les groupements acétyl. Donc là encore, pour chacun de ces groupes, il y a des produits actuellement. Et parmi les inhibiteurs de HDAC, c'est-à-dire les enzymes qui enlèvent la marque d'acétylation sur les histones, vous avez toute une série, et il y a le vorinostat, qui s'appelle aussi le SAA, qui a été reconnu par la FDA en 2006 et qui est donné à certains patients atteints d'un certain type de tumeur. Et puis aussi cibler maintenant, c'est ce qui est plus à la mode, je dirais, des enzymes qui sont impliquées dans l'addition ou au contraire l'élimination des groupements méthyle sur les histones. Là encore, une série de composés. Et l'approche qui est encore plus récente maintenant, je vous ai dit qu'il y avait trois types de protéines, celles qui mettaient des marques, celles qui les enlevaient, et celles qui pouvaient les lire. Et maintenant, l'approche, c'est d'essayer de trouver des inhibiteurs ou des produits qui vont empêcher la lecture de ces marques. Ces lecteurs, comme je vous l'ai dit, sont là pour après recruter tous les partenaires nécessaires à l'activité du génome. Donc là, on connaît au moins 200 lecteurs de marques et on peut imaginer qu'on pourra trouver des produits qui vont inhiber spécifiquement un lecteur de marque qui sera exprimé de façon anormale dans une tumeur. Donc voilà un petit peu où on en est dans la recherche de médicaments. Alors la recherche de médicaments, eh bien, c'est un processus très long. Vous savez qu'il faut de nombreuses années pour développer un médicament, que ça coûte excessivement cher. Il y a une première étape qui est une étape de développement où à partir de toute une collection de molécules, eh bien, ces molécules vont être testées pour essayer de trouver quelques candidats intéressants. Après, on passe dans des essais précliniques, c'est-à-dire qu'on va tester ces drogues sur des cellules en culture, hein, dans des boîtes de pétri. On va regarder comment ces cellules tumorales vont proliférer. On va regarder leurs caractéristiques. Et puis, si on est assez content de ce produit, on va passer aux essais cliniques. Cette fois, chez l'animal, in vivo, on va voir comment une souris se comporte avec cette drogue en question. Et puis ensuite, on va passer aux essais cliniques chez l'homme, en phase 1 pour un petit nombre de patients, phase 2, un nombre plus important, et phase 3, c'est la phase beaucoup plus large, où il y a un grand nombre de patients testés. Donc actuellement, comme je vous l'ai dit, les produits qui ont été retenus sont au nombre de 4 ou 5 pour l'instant. Il y a un certain nombre de produits en essais cliniques, qui concernent tous ces produits qui vont rajouter des marques ou qui vont en enlever, et même des lecteurs, et puis une autre série de produits en essai préclinique, et aussi une très grosse activité en développement pour trouver de nouvelles molécules intéressantes. J'ai bientôt fini. Donc, en ce qui concerne la thérapie épigénétique et cancer, il y a 10 ans, cette nouvelle approche avait suscité des espoirs extrêmement importants, et puis on a très très vite déchanté. Il y a même des gens qui ont dit c'est pas la peine, il faut abandonner. Et puis, depuis quelques années, l'espoir remonte fortement. Alors, pourquoi ça ? Eh bien, parce que dans les premières années où on a utilisé ces drogues épigénétiques, on les a utilisées sous la forme d'un seul composé, à des doses beaucoup trop importantes, ce qui fait qu'il y avait des effets secondaires très importants. Et en général, à part quelques pathologies cancéreuses qui ont été bien identifiées, ces drogues n'ont pas eu les résultats attendus. Donc on a un peu désespéré, et puis maintenant l'espoir remonte beaucoup, parce qu'on s'est aperçu qu'en modifiant les protocoles, il y avait des résultats extrêmement encourageants, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser une seule drogue à une dose massive, eh bien, il vaut mieux en utiliser plusieurs, voire deux, une qui va modifier les marques sur l'ADN, une qui va modifier les marques sur les histones. Il faut les administrer en combinaison à des doses faibles pendant un temps court. Et ce qui marche bien actuellement, c'est de les associer avec la chimiothérapie classique qui vise à détruire la cellule en modifiant par exemple l'ADN, en le cassant et en changeant sa structure. Alors pourquoi ? Eh bien parce que ce traitement épigénétique à faible dose, en concomitant avec la chimiothérapie classique, va modifier de façon pas trop importante, mais va quand même modifier la structure de la chromatine, va rendre l'ADN beaucoup plus accessible au traitement de chimiothérapie classique. Donc, c'est dans ce sens-là que les essais cliniques sont réalisés actuellement. Et il y a eu 2 essais, il y en a sans doute d'autres, mais malheureusement, je ne peux pas tout lire, il y a trop de choses qui sortent, mais ces deux-là semblent être assez prometteurs. un essai clinique publié fin 2011, utilisé pour traiter des patients qui avaient un cancer du poumon en phase terminale. Et on leur a donné une combinaison de deux produits épigénétiques. Et parmi ces patients, il y en a eu 45, ils avaient déjà subi plusieurs chimiothérapies auparavant, donc ils étaient vraiment dans un état assez... Enfin, ils étaient en très mauvais état au moment de ce traitement. Bien, chez deux des patients, il y a eu une rémission complète et puis une rémission partielle qui était absolument inattendue et inespérée. Et puis, il y a eu au mois d'août cette année une autre étude qui a été publiée dans le cadre de lymphome de cellules B, où là, il y a eu un traitement à l'azacitidine, donc qui va modifier l'ADN, la méthylation de l'ADN. Et chez ces patients, on a montré que l'addition d'azacitidine au traitement de chimiothérapie classique allait diminuer la résistance au traitement. Parce que le problème en cancérologie, c'est que très souvent, on fait un traitement et puis le patient acquiert une résistance. Et c'est le problème majeur au cours de ces traitements. Eh bien, il semble, en tout cas dans cet essai clinique, que l'addition d'une drogue épigénétique va diminuer la résistance au traitement. Donc, comme vous le voyez, l'épigénétique a des enjeux considérables dans le domaine de la connaissance fondamentale. Et à mon sens, étant chercheur et universitaire, je suis très attachée à cet aspect parce que tant qu'on ne connaît pas exactement comment fonctionne une cellule, on a du mal à vouloir corriger ses défauts. Il y a des enjeux considérables en santé publique, comme je vous l'ai dit, pour la prévention, pour déterminer les pathologies qui sont... provoquées par des phénomènes épigénétiques, pour l'aide au diagnostic, au traitement. Pour l'environnement, c'est important de savoir comment il peut influencer notre épigénome et l'environnement au sens large, hein, c'est savoir comment on vit, qu'est-ce qu'on mange, si on est soumis au stress, si on respire des choses pas très agréables, si on fume, si on boit de l'alcool. On sait qu'il y a des conséquences sur l'épigénome. Et puis, il y a des développements économiques importants, puisque vous dites bien qu'il y a des entreprises pharmaceutiques qui, actuellement, mettent beaucoup de moyens pour développer de nouveaux médicaments avec des cibles épigénétiques. Et puis, il y a des développements dans des domaines un petit peu inattendus qui, personnellement, me posent question. Il y a des développements en cosmétologie, donc si vous voulez avoir une belle peau régénérée, eh bien vous avez une crème qui s'appelle Epigenetics. Voilà. Et puis vous avez des compléments alimentaires qui s'appellent la symphonie épigénétique. Alors j'ai essayé de gratter un petit peu et de savoir la composition, mais là vraiment j'ai pas vu, donc bon, ça pose question effectivement, mais vous voyez que tout le monde veut faire d'épigénétique. D'accord ? Donc il y a des moyens mis en œuvre qui sont assez énormes depuis 10 ans, des moyens mis en œuvre depuis 2003 par le NIH. Le NIH, c'est le National Institute of Health, c'est l'équivalent de l'INSERM, c'est-à-dire de la recherche sur la santé aux États-Unis, donc qui a lancé trois gros programmes depuis 2003. Et puis il y a deux programmes internationaux, l'un en 2008 qui regroupe 15 pays, pour faire les cartes d'identité, enfin les épigénomes de tumeurs, et depuis 2010, un autre programme international pour déterminer l'épigénome, et le but est de faire 1000 épigénomes de 250 types cellulaires, et ces programmes, comme vous voyez sur la carte, eh bien, ils concernent l'Amérique du Nord, une grande partie de l'Europe de l'Ouest, l'Australie, le Japon et la Corée du Sud. Donc, pour terminer, je dirais, je pense que vous l'avez compris, bien l'épigénétique, c'est un chantier sans fin, hein, qui semble à ce jour sans fin. Là, je reprends les mots de Geneviève Almouzni, qui a été nommée très récemment directrice de l'Institut Curie et qui a un rôle très important dans l'épigénétique en France et au niveau de l'Europe. Donc, un chantier sans fin actuellement, parce que tous les jours, on découvre quelque chose de nouveau. Et dernière image, l'épigénétique, vous l'avez donc compris, donc ce sont différentes interprétations d'une partition, c'est pour ça qu'on compare souvent l'épigénétique à une symphonie. Hein. La symphonie, la partition, c'est notre génome, et la façon d'interpréter fait qu'on a un résultat plus ou moins plaisant, je dirais. Donc, si vous êtes, si vous voulez plus d'informations, je vous donne l'adresse de ce site où il y a énormément d'informations. Il y a beaucoup de choses en anglais. Je ne sais pas s'il y a une page en français. Il faudrait vérifier. Sinon, j'ai vu l'article du Monde que j'ai relu finalement, un article de 2012. Et je trouve qu'il est extrêmement bien fait. Je ne me rappelle plus de quel mois, mais si ça vous intéresse, je peux toujours vous donner la référence. Et puis, si vous avez envie de voir de l'ADN, savoir comment on le manipule, eh bien, vous avez ici, je fais de la pub gratuitement, vous avez ici l'école de l'ADN qui offre des ateliers pour les enfants, mais aussi pour les adultes, où pour les adultes, eh bien, vous allez extraire l'ADN de votre salive. Et puis, vous allez ensuite manipuler cet ADN, le couper par des enzymes, le regarder sur un gel d'électrophorèse. Donc, ces ateliers sont ouverts aux adultes. Donc, je vous encourage très fortement à venir les suivre. Donc, je vais terminer là en vous remerciant pour votre attention. J'ai mis un tout petit peu plus de temps que prévu, mais excusez-moi. Et puis, si vous avez des questions, bah, je vais essayer d'y répondre. Ah, d'un seul coup, trois doigts.
Je me demandais, quand on fait les marqueurs pour les gens qui ont des cancers, est-ce qu'il y a une relation avec tout ça? On fait des analyses pour savoir si les gens ils ont un cancer. On appelle ça les marqueurs.
Actuellement, je dirais que les marqueurs épigénétiques, ils ne sont pas très nombreux. C'est souvent limité au centre de recherche. Ce qu'on regarde plutôt marqueurs, c'est par exemple des gènes qui ont été mutés, par exemple, dont la séquence est cassée, par exemple. Le gène MLL dont je vous ai parlé, dans les leucémies, est souvent extrêmement cassé. Donc on peut le visualiser, ça, dans la cellule, et on peut voir que MLL, le chromosome est cassé, enfin, le gène est cassé ou rabouté à un autre fragment de chromosome à l'endroit où il ne devrait pas être. Donc c'est par exemple une façon de définir un marqueur. Par exemple, dans le cancer du sein, on peut regarder le gène de réparation de l'ADN qui s'appelle BRCA1 et on peut, par séquençage de l'ADN, voir s'il y a une forme mutée de ce gène-là qui peut donner une susceptibilité à développer un cancer. Donc ça, ce sont des mutations, ce que j'appellerais génétiques. Épigénétique, comme je vous l'ai dit, c'est assez limité pour l'instant, mais il y a l'exemple des gliomes, les tumeurs du cerveau, où on regarde, et ça se fait ici au CHU de Poitiers, si le gène de MGMT, qui est un gène de réparation de l'ADN, s'il est sous forme méthylée ou non. Et s'il est sous forme méthylée, ça veut dire que l'ADN n'est pas... ne peut pas être réparé, donc on pense que le patient qui sera traité avec des agents alkylants qui vont casser l'ADN, eh bien dans ces cellules où ce gène de réparation est muté, est anormal, la cellule ne pourra pas être réparée, donc la cellule tumorale va mourir. Donc c'est une indication d'une réponse possible à un traitement. Donc il y a une utilité de l'étude de ces marqueurs.
Oui, merci Joël pour cette belle présentation. Je me demandais, finalement, tous ces mécanismes épigénétiques sont généraux, on les trouve dans toutes les cellules. Mm-hmm. Et effectivement, toutes ces approches de thérapie qui utiliseraient un inhibiteur d'un lecteur, est-ce qu'on ne risque pas de perturber finalement les cellules de l'organisme et pas seulement la cellule cible? Et comment répondre à cette question justement?
Alors là, je dirais que je n'ai pas de réponse parce que effectivement, ces drogues, azacitidine, décitabine, etc., vont modifier les cellules, aussi bien les normales que les cellules cancéreuses. Pour ce qui est des inhibiteurs de méthylation de l'ADN, la décitabine et l'azacitidine, ce sont des composés qui doivent être incorporés à l'ADN au cours de la synthèse. Donc là, on va de préférence toucher les cellules cancéreuses qui se répliquent en permanence, qui se divisent. Donc on va toucher préférentiellement les cellules en division qui sont a priori les cellules de la tumeur. D'accord ? Donc, bon, c'est pas parfait, bien évidemment, on le sait hein, que c'est pas parfait. En revanche, j'avais une idée qui m'est venue, elle est partie aussi vite. C'est un phénomène épigénétique, sans doute. En revanche, voilà, on utilise les inhibiteurs de HDAC, d'histone des acétylases. Et on sait, je vous ai présenté les histones des acétylases, dans leur nom on dit histone, donc on pense qu'elles vont désacétyler uniquement les histones. En fait, on sait qu'il y a plus de 1000 protéines autres que les histones qui sont soumises à des phénomènes d'acétylation et désacétylation. Donc il est certain que ces drogues vont aussi cibler d'autres molécules. Donc c'est pour ça, je dirais maintenant, enfin je ne suis pas médecin, hein, donc... Mais en tant que biologiste, je me dis que espérer, c'est pour ça que les espoirs étaient si grands et puis qu'on est passé dans une phase de désespoir, hein, qu'on puisse cibler uniquement la cellule cancéreuse, la tuer et pas les cellules normales par ces drogues-là uniquement, je pense que c'est pas tout à fait réalisable, quoi. Et je pense que l'approche actuelle de les combiner à faible dose avec des drogues cytotoxiques de chimiothérapie classique a beaucoup plus de chances de réussir que de les utiliser seules et à haute dose à cause des effets secondaires importants qu'elles ont.
J'avais une question. Par rapport aux techniques pour étudier les phénomènes épigénétiques et l'épigénétome, en fait, est-ce qu'il existe des techniques qui vont permettre d'analyser la totalité des modifications, ou est-ce qu'il faut une technique pour chaque type pour voir la méthylation, l'acétylation, les modifications des histones? Enfin, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Par exemple, étudier le génome, c'est pas si compliqué que ça par rapport à l'épigénome.
Alors actuellement, pour étudier l'ensemble des marques, effectivement, c'est pas une chose facile. Globalement, on sait faire avec des techniques classiques que vous avez vues. Hein, bon, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais techniques Western blot, etc., classiques, mais ce sera une analyse globale. Ce qui est fait dans l'épigénome, c'est qu'on va regarder tout le long de l'ADN, sur tous les nucléosomes, le long de toute la séquence de l'ADN, on va regarder quelles sont les marques. Donc, actuellement, ce qui se fait, là, je ne peux pas rentrer dans le détail parce que vraiment, ce serait très complexe, hein, mais j'ai dû vous parler en cours de techniques d'immunoprécipitation de la chromatine où on va utiliser des anticorps dirigés contre des marques bien spécifiques. On va récupérer la chromatine associée à ces marques. Ensuite, on va extraire l'ADN, on va le séquencer et ensuite, on va reconstruire tout le génome en apposant les marques les unes contre les autres. Donc cette technique-là, bien évidemment, est complètement dépendante d'utilisation d'anticorps qui doit être spécifique de chacune des marques, hein, c'est-à-dire la méthylation de l'histone H3 sur la lysine 4, il faut un autre anticorps pour la lysine 9, etc. Donc il faut toute une batterie d'anticorps et on sait très bien qu'il peut avoir des spécificités qui ne sont pas à 100%. Donc il y a actuellement d'autres approches qui vont être développés ou qui sont en cours de développement, qui vont utiliser la spectrométrie de masse pour essayer de détecter ces marques sur le génome.
Merci.
Oui, bonjour, merci. J'aurais voulu que vous nous développiez un petit peu l'aspect de transmission d'une génération à l'autre de ces aspects épigénétiques. Comment ces marqueurs se transmettent?
Ben là, je crois que je n'ai pas de réponse. Donc. À moins que quelqu'un qui s'y connaît un peu plus... Non, personne n'a de réponse. Et puis, bon, ces études qui ont été réalisées en Suède, c'est vrai que c'est plus une corrélation qu'autre chose, c'est-à-dire qu'on a lié l'état... Enfin, l'alimentation des grands-parents avec la santé des petits-enfants, c'est une corrélation. Ça veut peut-être pas dire forcément qu'il y a une réaction de cause à effet. Hein, ça peut être discutable. Mais on sait, par exemple, que l'alimentation d'une femelle de souris gestante, en fonction de l'alimentation qu'elle a, transmet sa descendance. Et il y a sûrement des signaux qui passent de la cellule, des cellules de la mère au fœtus. On sait, par exemple, que ces petits ARN qu'on appelle les micro-ARN, qui sont extrêmement importants dans la régulation de l'expression des gènes, peuvent être sécrétés par les cellules, peuvent être sécrétés dans des structures qu'on appelle les exosomes ou peuvent passer directement d'une cellule à l'autre par des petits pores, par exemple, et donc peuvent passer du génome, enfin des cellules maternelles vers les cellules du fœtus, par exemple. Et ces micro-RNA sont aussi extrêmement intéressants actuellement parce que chez des patients cancéreux, ces micro-RNA peuvent passer dans la circulation sanguine, on peut les retrouver dans le sang. Et il y a des brevets actuellement qui ont été pris pour détecter certains types de micro-RNA dans le sang de patients, dans le cas de cancer du poumon, où on peut avoir une signature de la tumeur par l'analyse de ces micro-RNA. Donc il y a des choses, des informations qui peuvent passer d'une cellule à l'autre et de la mère à l'enfant. C'est une possibilité, hein, mais je ne pense pas qu'on sache, on est loin de tout savoir actuellement. Vous avez tout compris. Alors, pensez que ce soir, quand vous allez vous endormir, quand on s'endort la nuit, eh bien, notre génome ne fonctionne pas de la même façon. Nous avons des gènes qui vont s'endormir aussi, puis d'autres qui vont être activés. On synthétise des hormones différemment entre le jour et la nuit. Notre métabolisme est différent entre le jour et la nuit. Donc, ça veut dire que au moment de l'endormissement et un petit peu avant, eh bien vous allez restructurer votre chromatine. Donc pensez à ce petit modèle ici. Vous allez avoir des nucléosomes qui vont s'étirer, d'autres qui vont se condenser pour que vous puissiez vivre différemment pendant que vous dormez ou lorsque vous êtes éveillé.